Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
France Inter. Aujourd'hui, je reçois le comédien André Dussolier pour le film « N'avoue jamais » d'Ivan Calberac, sorti hier en salle. On parlera fidélité, pardon et prescription.
Mais tout de suite, le temps de se brosser les dents. Voici les petits bateaux avec Camille Crenier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, c'est pour une consultation que vous avez rendez-vous ?
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 9 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi les docteurs sont toujours en retard. Au revoir.
Margot, là, avec ton petit air innocent, je pense que tu viens de faire réagir un paquet de monde. Certains qui sourient et qui valident, et d'autres qui s'étranglent, notamment les docteurs. Et docteur, c'est justement votre métier, Sophie Gottmann, puisque vous êtes dermatologue, et vous avez accepté de répondre.
Alors, les médecins ne sont pas toujours en retard. Certains le sont parfois, certains le sont souvent. Rarement sont ceux qui le sont toujours. Pourquoi les médecins peuvent-ils être en retard? D'abord, il faut savoir qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez de médecins et les médecins sont débordés, ils ont trop de patients, donc c'est difficile. Parfois, il y a des urgences qu'il faut intercaler entre des rendez-vous standards, donc ça vous rajoute un patient. C'est source de retard, évidemment. Ensuite, je dirais qu'on a des agendas avec des heures de rendez-vous, mais vous savez qu'il est extrêmement difficile de savoir à l'avance combien de temps il va falloir consacrer à une personne. Ça dépend de la personne elle-même. Imaginez une personne d'un certain âge ou handicapée qui a du mal à se déshabiller, qui n'entend pas très bien, qu'il faut répéter. Imaginez qu'il faille annoncer une mauvaise nouvelle, qu'il s'agit d'une maladie grave, qu'il y ait une explication sur un traitement compliqué à donner. On ne peut pas savoir à l'avance combien de temps il va falloir parler, expliquer à la personne, dialoguer, l'écouter, combien de temps pour l'examiner. Donc c'est difficile à gérer un agenda de médecin. Alors, on compte souvent sur, on se dit, bon, bah là, je vais pouvoir rattraper avec le patient suivant, là, j'ai passé trop de temps avec ce monsieur ou cette dame, heureusement. Et puis, en fait, parfois, bah, il y a deux patients ou trois patients qui se succèdent, qui nécessitent plus de temps et plus d'attention, et on va pas les mettre dehors sous prétexte que le temps est passé. Ça veut dire que la personne qui suit dans la salle d'attente, elle va attendre un petit peu plus longtemps, et si on n'a pas de chance, et c'est souvent la loi des séries, plusieurs patients compliqués viennent de suite, et bien, ça y est, le retard est vite attrapé. Mais, bon.
Mais, enfin, il y a quand même des médecins, on va dire, qui sont toujours ou presque toujours à l'heure, et d'autres connus pour être, alors peut-être pas toujours, donc, mais souvent en retard. Est-ce que c'est pas aussi parce que certains ne prévoient pas de temps mort, justement, pour anticiper certains imprévus, ou juste pour souffler?
On pourrait avoir des blancs. C'est-à-dire une plage, mais moi, j'essaie d'avoir ça. D'avoir une plage horaire où on peut éventuellement rattraper. Très honnêtement, on essaie d'être à l'heure. Et c'est pas toujours possible, croyez-moi. Il y a quand même pas mal de médecins, à partir du moment où la personne rentre dans la pièce, vous êtes pour cette personne, là, vous faites rien d'autre, vous êtes consacré à cette personne. Donc, on peut oublier le temps. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive d'oublier le temps. Je suis dans la relation avec la personne, j'essaie de régler le problème, de prescrire ce qu'il faut, d'expliquer. Et bien, c'est vrai qu'on se laisse savoir. Enfin, moi, je me laisse savoir, souvent.
Et là, quand on est ce patient, on est content, mais pas quand on est dans la salle d'attente.
C'est ça. On n'est pas content qu'on consacre du temps à celui qui était avant soi.
Et là, alors, ça n'a jamais été aussi vrai, hein. Il faut prendre son mal en patience. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli France Inter.
Et tout de suite, place à vous, Eva Bester. Bonsoir, c'est Grand Canal.
Bonsoir Camille. André Dussolier est en studio et avec lui tous les grands auteurs dont il a dit les textes, ce qui fait qu'on est un peu serré. Le comédien André Dussolier a 3 Césars, un Molière et plus de 150 films à son actif. Voilà pour les chiffres. Mais ce littéraire n'aime pas les chiffres, alors j'évoquerai plutôt sa maîtrise en lettres modernes, sa licence en linguistique et son dernier spectacle, Sans Dessus Dessous, seul en scène aussi truculent qu'émouvant, dans lequel le spirituel athlétique récitait une sélection de textes, de haute qualité évidemment, extraits de sa bibliothèque. Depuis hier, il est dans la comédie N'avoue jamais d'Ivan Calberac aux côtés de Sabine Azéma et de Thierry Lhermitte. Le réalisateur a été inspiré par un fait divers dans lequel un homme découvre, 70 ans plus tard, l'existence de lettres d'amour destinées à sa femme, révélant une ancienne infidélité. Aucune excuse de prescription pour l'homme trompé qui a demandé le divorce à 90 ans. Dans le film, c'est évidemment plus léger. André Dussolier campe François Marceau, ancien lieutenant de la marine attaché aux traditions, qui chante des chansons d'anniversaire sur l'air de la Marseillaise et décore ses murs d'un portrait du général de Gaulle. En tombant sur des lettres d'amour adressées à sa femme dans le grenier, il se rend compte qu'il a été trompé 40 ans plus tôt. Marié depuis 50 ans, il ne peut pardonner l'écart et souhaite aussi le divorce. Quand il se rend compte que l'amant est un ancien ami, il convoite également une vengeance physique. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter. Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir André Dussolier.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Je pense que ce métier de comédien est un métier d'athlète. Hein. Franchement, je le pense depuis toujours. Mais donc aujourd'hui, j'essayais de récupérer un petit peu entre les moments hauts et intenses et que nous avons vécu avec Yvan et avec d'autres personnes comme ça qui nous accompagnaient la journée. Et puis le besoin de lâcher prise. Mais voilà, c'était des montagnes savoyardes. Comme d'habitude.
Que vous connaissez bien. Oui. Vous venez de finir la tournée de votre seule en scène sans dessus dessous, délicieux spectacle dans lequel vous faisiez entendre les textes d'auteurs affectionnés de votre bibliothèque. Quel classique lisez-vous en ce moment ?
Ah, oh là là, je suis très en retard.
Sur
les vieux classiques et sur les jeunes modernes, vraiment, sauf avec le cinéma de Yvan. Là, je suis un peu dans les modernes. Heureusement qu'il y a le cinéma, mais des classiques, ça fait un petit moment. Vous voulez me faire parler de Bérénice, par exemple. La Bérénice que je connais, moi, en tout cas, c'est celle de Dubillard, qui dit, qui est une actrice qui, à 87 ans, joue encore Phèdre. Ça, c'est là, je m'amuse beaucoup avec, et tous les soirs, quand je joue, puisque j'étais en tournée. Mais sinon, les classiques, moi, j'en ai vu des beaux classiques, mais j'en ai pas lu récemment, en tout cas.
Vous avez grandi dans un village à côté d'Annecy, éducation stricte, monde silencieux, vous l'avez souvent abordé dans des interviews, et solitude. Vous avez fait vos études de lettres à Grenoble, il paraît que la première chose que vous avez faite dans votre chambre d'étudiant, c'était de piétiner votre pantalon puisque vous deviez toujours le poser normalement très bien plié sur une chaise.
Vous voyez que j'avais pas l'âme d'un militaire, comme dans le film de Yvan Calmerac. Non, c'était, oui, j'étais dans une éducation assez sérieuse et j'étais très obéissant. Et donc, en effet, une fois que j'ai jeté ma gourme, etc., pour aller dans la cité universitaire, je pouvais faire ce que je voulais. Enfin, j'avais une indépendance, pas très longue, une semaine, mais enfin quand même, j'en ai profité le premier jour pour piétiner mon pantalon et casser les plis. Voilà ce qu'on m'obligeait à faire quand j'étais jeune. Non, l'éducation était assez stricte quand j'y pense. Mais enfin, on s'en libère assez vite.
C'est à Sartre et à la découverte de l'existentialisme en classe de philo que vous devez vos premières rébellions. Êtes-vous toujours indocile ?
Oui, j'adore la liberté et c'est vrai que Sartre, alors que je pensais vraiment que étant né dans une région où le déterminisme avait beaucoup d'importance, vraiment on était le fils de paysans en l'occurrence et puis mais mon père était descendu à la ville, genre j'avais déjà c'était un premier signe et en philo j'ai découvert Sartre grâce à un prof de philo que j'adorais et là tout d'un coup il a dit mais non on peut mener la vie qu'on veut, on est indépendant, libre, rien ne nous attache à rien donc là j'ai les choses étaient dites, soulignées. Écrite dans un livre, donc c'était une libération supplémentaire.
Et vous l'avez vérifié ?
Et oui, et je m'en sers tous les jours. Et alors, en plus, en faisant ce métier, parce que parallèlement, je faisais du théâtre, et donc du coup, alors là, c'est la liberté absolue, c'est vrai, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, d'un classique à un moderne, ou bien d'un militaire à je ne sais quel autre personnage. Non, c'est vraiment une liberté très grande. Alors, c'est illusoire, bien sûr, c'est juste pour un instant, mais il n'empêche qu'on le vit à fond, avec vérité, et du coup, c'est une joie très très grande. Et j'aime bien la comédie, donc aussi, l'occasion qui m'est donnée de vous rencontrer là aujourd'hui, ensuite, grâce à la comédie de Yvan Calberac, c'est aussi une partie que j'aime bien, parce que j'aime bien qu'on rit, qu'on fasse rire, qu'on entende les gens rire, sourire, et même le silence aussi est très beau, parce qu'il y a de tout dans ce film.
I'm sorry. dans l'océan de mes pensées. Parlons-nous là ou même là. Tout ça prend du temps. Combien de temps passé dans le brouillard? Je me sens m'enfoncer dans un trou noir. Je ne vois plus mon reflet dans le miroir. Tu sais, je doute.
Arlo Parks et Loose and the Yakuza, I'm Sorry.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
André Dussolier, vous êtes François Marceau dans N'avoue jamais d'Yvan Calberac. Votre épouse est Annie, jouée par Sabine Azéma, avec laquelle vous partagez l'affiche pour la 12e fois, je crois. Est-ce que ça facilite la collaboration ou au contraire la complique parce que vous la connaissez trop?
Eh ben, vous avez dit les choses très justement. Ça, c'est les deux, quoi. C'est vrai que ça facilite parce qu'on a une grande complicité, une facilité. On ne se surveille pas. On a une grande liberté l'un vis-à-vis de l'autre. L'autre peut faire tout ce qu'il a envie de faire l'invention et même, voilà, se tromper, aller on est toujours client parce qu'il y a une grande confiance qui s'est établie. Puis en même temps, c'est vrai qu'il m'est arrivé une fois, c'était dans Les Herbes Folles de René, où je devais jouer un personnage tout à fait différent. Et je me disais, mais comment elle va réagir? Comment ils vont réagir l'un et l'autre? J'ai une manière de regarder, de parler qui n'a rien à voir. Mais je pense que dès que les comédiens sont ensemble et qu'on est dans la bonne ligne, dans la bonne voie pour jouer quelque chose, ça fonctionne tout de suite, immédiatement. C'est ça qui est vraiment miraculeux et magique dans ce métier.
Vous dites avoir voulu faire un film lumineux, espiègle et à rebours de l'actualité plombante. Est-ce que les histoires que vous tournez, bien qu'elles soient pure fiction, agissent sur votre humeur ?
Pendant qu'on tourne, oui, parce que je suis obligé de parler du metteur en scène, parce que c'est vrai que lui a déjà une humeur joyeuse, gay, il est inventif tout le temps, il cherche, donc ça c'est agréable de travailler dans cet esprit-là et dans cette ambiance-là. On dépend beaucoup de l'ambiance qu'il peut y avoir sur un plateau. Maintenant, on est au service d'une scène, d'un auteur, des personnages, donc on se donne pour l'instant, sur le moment, à tout ce qu'on doit faire avec beaucoup d'intensité et de vérité.
Vous revenez souvent en interview sur vos débuts quand vous étiez un peu confiné dans le cinéma d'auteur entre René et Romère. Et puis il y a eu Colin Serrault qui a été un vrai tournant vers la comédie. Et vous êtes heureux vraiment de faire davantage de cinéma populaire et d'action?
Oui, j'aime bien tous les cinémas, j'aime bien tous les films. Vous avez raison de citer les auteurs. En l'occurrence, Colin Serrault était considéré comme un auteur. Elle avait fait 5 ou 6 films qui n'avaient pas beaucoup marché. Puis tout d'un coup, elle aborde ce sujet dont personne ne voulait, auquel personne ne croyait, y compris des comédiens d'ailleurs. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Moi, je sortais de L'Amour à mort. Les distributeurs, les producteurs ne voulaient pas de moi. Et moi, je suis arrivé, j'étais en bout de course. Et donc, Colin, qui est comédienne et metteur en scène, savait très bien qu'un comédien peut jouer des drames et des comédies aussi, selon la partition qu'il lui a proposée. Et donc j'étais tout à fait heureux d'enfin pouvoir jouer une comédie, ce que j'avais toujours joué quand j'étais au conservatoire et que je passais des scènes avec Nathalie Baye, avec Villeray, etc.
Pas de drame à ce moment-là au conservatoire?
Non, pas de drame, enfin des choses, des classiques, beaucoup de classiques, mais des légèretés, des comédies américaines, des choses on aime bien, c'est vrai qu'on a envie, j'avais envie d'entendre, on peut entendre un silence, une écoute profonde, ça c'est formidable, c'est palpable, c'est aussi important et aussi puissant qu'un rire. Et j'aime bien les rires aussi quand ils émergent d'endroits tout à fait différents. Dans un sujet comme celui de la jalousie, là dans le film, y a des gens qui peuvent se reconnaître à tel endroit ou tel autre, des gens de toutes les générations. Donc du coup, ça c'est plaisant d'être dans une salle, y compris au théâtre, de les voir rire ou réagir en fonction de ce que ça leur provoque comme écho à leur propre vie.
Le film N'avoue jamais devait d'abord s'appeler Un homme de principe.
Oui.
Celui que vous campez, André Dussolier, comment le caractériseriez-vous ?
C'est un militaire qui, en effet, pense que les choses sont établies une fois pour toutes et qu'il a il est très amoureux. Donc il est considérablement investi dans cet amour. Il a des enfants, tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il est rassuré par cet amour auquel il croit. Et puis tout d'un coup, son univers s'effondre quand il découvre cette lettre qui date pourtant d'il y a quelques années, il y a prescription, comme lui dira sa femme, que joue Sabine, Asema, mais lui, pour lui, il l'apprend aujourd'hui, donc c'est le passé qui redevient présent, et donc ça devient extrêmement difficile et violent à vivre pour quelqu'un qui croyait dur comme fer à cet amour, qui était au moins une valeur, mais vraiment pérenne, et à laquelle il croyait et qui n'allait pas pouvoir s'effondrer. Un militaire, ça aime avoir des certitudes.
Et vous ?
Et moi, non. La jalousie, c'est pas un sentiment. On a appris quand même au fil des générations, quand même, que personne n'appartenait à personne. Et donc la jalousie, c'était pas très joli d'exprimer sa jalousie quand même haut et fort. On pouvait avoir des réactions, mais enfin, ce qui est beau, c'est de voir quelqu'un prendre sur lui, etc., assumer. Ou alors la vérité, il faut la faire naître. C'est beau. Et un couple, l'histoire d'un couple, c'est vraiment une histoire. C'est fort de vivre toute une vie en couple. Pendant toute une vie, voilà, c'est quand même, c'est comme une œuvre d'art. C'est vraiment, il y a beaucoup d'obstacles, et c'est là qu'on voit la valeur et la vérité finit toujours par triompher, j'ai envie de dire. Mais même si elle est douloureuse à entendre, même c'est là que se révèlent les êtres et la beauté des êtres.
Adrien, fallait que je te dise, le général Pasquier recrute dans l'infanterie.
Papa, je suis pas en recherche d'emploi.
Non, je sais bien, mais je dis ça en cas de besoin. Comme ça, à côté, tu pourrais tranquillement continuer à faire ton guignol.
Papa, s'il te plaît, fais un effort. Je t'ai déjà dit, c'est pas du guignol, je suis marionnettiste.
Distraire les gamins au goûter d'anniversaire, c'est sympathique, mais...
Je fais pas que ça. Je fais aussi des spectacles dans des vrais théâtres. Mais tu peux pas t'en souvenir, t'es jamais venu.
Mon père m'emmenait quand j'étais gamin, et lui...
Il n'était pas pour guignol, il était pour le gendarme.
Voilà, il disait, guignol, ça restera toujours un guignol.
Il avait l'air super.
N'en avoue jamais, l'ancien amant est joué par Thierry Lhermitte et vos enfants, André Dussollier, par Joséphine Demeaux, Sébastien Chassagne et Gaël Giraudeau. Là, on entend votre discussion avec le fils joué par Sébastien Chassagne, qui est marionnettiste, qui n'est guère la tasse de thé de l'ancien lieutenant Marceau, qui ignore les goûts de ses enfants, parfois parce qu'on lui cache et parfois délibérément. Je pense à sa fille, notamment.
C'est des propos entre parents et enfants qu'on a souvent entendus, etc. Mais même encore aujourd'hui, encore dans ma Savoie éloignée, etc., ça faisait peur, le théâtre, être comédien. Mais là, être marionnettiste, même encore aujourd'hui, y compris pour un militaire, c'est quand même quelque chose qui fait peur et qui inquiète les parents. On se dit, bon, c'est quand même incertain, tout ça. C'est quand même... Bah, tout ce qui concerne l'art, l'expression personnelle, ça effraie l'entourage. Et encore plus les familles qui sont soucieuses de la stabilité et d'une profession... vraiment rassurante pour leurs enfants.
Pensez-vous qu'être déçu par ses parents ou ses enfants soit finalement une chose inévitable ?
Oui, ça fait partie. Toute éducation étant imparfaite, donc il faut. Moi, j'ai appartenu à cette génération qui, en 68, s'est libérée de la tutelle des parents. Et puis finalement, alors je trouvais ça formidable. Moi, j'ai des enfants, deux enfants, et j'ai voulu être, je vais pas dire le copain de mes enfants, mais ils me reprochent maintenant de pas avoir été le père. Je ne vais pas dire un militaire, mais quand même de proposer un cadre très très fort sur lequel les enfants peuvent se heurter, se construire, etc. Je le comprends. Mais en même temps, on ne se refait pas et on hérite de l'éducation qu'on a eue, on la change, on la transforme, on la transmet autrement et c'est pas forcément gagnant.
Est-ce que vous pensez qu'on connaisse vraiment un jour ses parents ou ses enfants ou reste-t-il des inconnus finalement?
Je pense que il y a toujours une inconnue, y compris pour soi-même. C'est la vie, c'est une longue aventure et c'est beau parce qu'on a on a besoin de se heurter aux réalités pour se découvrir, pour aller plus loin. Il y a une très jolie phrase qui dit, et je crois que c'est Christophe Colomb qui a dit ça, on ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait où l'on va. Bon, évidemment, ça s'explique beaucoup pour lui, mais pour la psychologie humaine, c'est aussi vrai, quoi, parce que c'est une aventure sans fin. On sait qu'on est toujours à la recherche du dépassement de soi, et de la découverte aussi. Et alors encore plus avec les enfants qui nous échappent, qui s'appartiennent et qui ne ressemblent pas forcément à leurs parents.
Enfin, c'est ridicule. On va pas se séparer, pas nous. C'est pas possible.
Tout est possible.
Je comprends que tout ça soit très désagréable pour toi. Mais enfin, c'était dans une autre vie. Depuis, je suis toujours à tes côtés, à te soutenir. On a élevé trois merveilleux enfants, on a été heureux, on l'est encore. C'est ça qui compte le plus, non?
Ça fait 40 ans qu'on vit dans le mensonge.
Pas du tout. J'avais complètement oublié cette erreur de jeunesse.
Un mensonge, c'est toujours un mensonge, même par omission.
Franchement, François, il y a prescription, non?
Les prescriptions, c'est quand on est malade. Je suis pas malade, je suis blessé.
On parle d'un adultère d'il y a 40 ans, mais le personnage que vous campez, André Dussolier, est blessé comme s'il survenait aujourd'hui. Vous le comprenez, ce personnage?
Oui, bien sûr, parce qu'il le vit au présent, tout ce qu'il vient d'apprendre là, et qui date en effet. Je comprends les deux points de vue. Et j'ai envie de donner raison à Sabine, enfin, au personnage que joue Sabine, bien sûr. Mais tout ça, c'est une comédie. Donc, évidemment, ça pourrait être un drame. Hein. La jalousie génère des choses épouvantables dans la vie de tous les jours, et on voit des voilà. Mais là, Yvan Calberac a choisi d'en faire une comédie, et heureusement. Et donc, mais c'est une comédie révélatrice aussi sur ce qui est chacun.
Et sur ce qu'on tait, sur le silence, et je peux pas m'empêcher de penser à cette anecdote que vous aviez racontée à Télérama. C'est pas une anecdote d'ailleurs, André Dussolier. C'était 6 mois avant la mort de votre père, oui, en 2010. Oui. Il vous a révélé, oui, un secret qui était la, oui, cause du silence qui, oui, entourait votre famille.
Oui, c'est vrai,
et
c'est
il y a
vrai.
Quelques échos, j'ai l'impression, avec ce film, mais version dramatique.
Oui, c'était version dramatique, là, parce que, bah oui, il y a toujours des secrets de famille.
Votre mère était amoureuse.
Oui, oui, c'était.
De leur patron pendant qu'il était prisonnier de guerre.
Voilà. C'était une histoire dramatique et terrible qu'il vivait, lui, et il me l'a révélé. Je sentais bien qu'il y avait une chape de plomb qui était tombée sur cette famille. J'étais le fils unique, et donc, il y a des tas de mystères. Et un enfant, il est démuni, quoi. Il ne peut pas, devant les adultes, il ne peut pas lutter. Les adultes, avec leur vie, leurs mystères, ce qui ne confie pas, et donc il faut se débrouiller avec tout ça. C'est redoutable, quoi. Y compris, c'est comme j'ai vécu une histoire d'amour épouvantable, enfin épouvantable, qui s'est révélée être épouvantable, et était magnifique au début. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que ça déclinait, et ça, souvent, tout le monde a dû le vivre, ça. Mais à un moment donné, où je sentais que ça n'allait pas très bien, mais j'ai dû faire les demandes et les réponses. Elle ne me disait rien, elle ne m'avouait rien, et je sentais bien qu'il y avait un problème, et c'est moi qui ai dû faire. Alors quand on est obligé de faire les demandes et les réponses, c'est vraiment douloureux. Et encore plus avec des parents qui vous disent rien, quoi, et qui vous le disent à la fin de la vie. Donc, il restera toujours des manques dans une histoire de famille.
Est-ce que vous avez tendance à dire les choses? Quel est votre rapport au silence, finalement?
Moi, j'ai envie de le combler, le silence. J'ai envie de parler. La parole, c'est tellement merveilleux. La vérité, c'est tellement merveilleux. Ça permet d'avancer, quoi. Ça permet de construire. Ça permet de se découvrir et de se révéler, et de permettre aux autres aussi de se révéler et d'avancer. Même si la vérité j'aurais voulu vous dire un texte de Cocteau qui s'appelle Le Menteur, qui tombe toujours dans le mensonge. Il aime la vérité, mais la vérité ne l'aime pas. Voilà. Donc il finit par dire toujours des mensonges, et il finit par dire, mais le mensonge, c'est épouvantable, c'est des fils de fer barbelés la nuit. La vérité, c'est simple, hein. On a les ennuis tout de suite, à la minute, et puis après, les choses s'arrangent. Et c'est vrai, mais on ne choisit jamais ce chemin très court de dire la vérité.
Mais vous dites aussi, André Dussolier, que le silence est le lieu de création de l'acteur. Vous dites, regardez De Niro, lisez Pinter, tout est dans le silence.
Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est ça qui est formidable. Les dialogues sont beaux, ils sont beaux à dire, mais c'est comme une balle de tennis ou c'est comme une fronde, souvent. C'est-à-dire, vous avez le mot qui est dans la fronde, comme une pierre, et puis il appartient à l'acteur de la lâcher selon l'effet que vous voulez qu'elle ait, quoi, pour atteindre sa cible, et la balle pour la mettre dans tel ou coin ou tel autre. Donc, vous êtes maître du jeu avec le silence. Le silence, c'est vraiment l'écrin aussi des mots, mais les mots, on peut les balancer au bon moment, quoi. Et nous, on est les maîtres du silence. Il y avait une très jolie phrase d'ailleurs de Lucien Guitry. Il y avait un admirateur à la fin d'une pièce de théâtre. Il dit, oh là là, la manière dont vous parlez, dont vous dites les choses, c'était un classique aussi, c'est formidable. Et puis alors, vos silences. Et Lucien Guitry dit, ce sont les miens. Donc ça, c'est tout est dit, quoi, parce que c'est vrai que ça appartient. Et j'aime beaucoup les metteurs en scène. Il n'est pas loin, alors je suis à la fois gêné de le dire, mais en même temps, c'est vrai, qui aime ça, quoi, qui aime le silence et qui laisse à l'acteur la possibilité de dire les mots, mais aussi de jouer les silences.
White Family, Religion for One.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
N'avoue jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes.
N'avoue jamais de Guy Mardel, qu'on entend dans le film homonyme d'Ivan Kalberak, dans lequel vous jouez André Dussolier, un mari trompé 40 ans plus tôt. Tout à l'heure, vous disiez que justement, vous qui aviez tant connu le silence, vous étiez pour le verbe, pour dire les choses. Mais pensez-vous qu'il faille tout dire, et surtout dans un couple ?
C'est compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire c'est une question de moment, peut-être. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout de suite, immédiatement, mais qui verront le jour un peu plus tard, à la faveur d'une circonstance qui s'y prête davantage. Voilà, on ne peut pas maîtriser, mais c'est un art, hein, franchement, la vie de couple, et donc c'est pas évident. Mais quelquefois, la vérité, elle demande qu'à sortir, et ça, vous ne pouvez pas la retenir, et il faut qu'elle éclate, et c'est salutaire, ça peut être bénéfique. Si on la dépasse le moment difficile que ça génère.
Alors, il y a une chose amusante dans le film, c'est que pour avoir des renseignements, vous avez la complicité d'un jeune qui était à l'époque sous votre commandement et qui vous appelle mon général, et il vous parle du polyamour qu'il pratique.
Oui.
Et je voudrais savoir, André Dussolier, pensez-vous que nous soyons faits pour l'exclusivité ou la multiplication des aventures, ou finalement l'exclusivité idéologique et la liberté physique, et c'est sans doute ça le drame?
Alors.
Oui, c'est très compliqué.
Je vous tends peut-être un piège. Pour cette consultation tout à fait privée et particulière. Et
il n'y a que 600 000 personnes qui entendent.
D'auditeurs sont témoins. Alors là, chacun va pouvoir faire sa cuisine avec tout ça, parce que, évidemment, on n'est pas... Non, l'exclusivité... C'est pas possible. Ça veut pas dire forcément, oui, le polyamour dont parle l'acteur là, ou le personnage. En effet, il appartient à une autre génération, et j'en connais en effet qui sont comme ça. C'est au moins le côté moral est évacué, quoi. Le côté parce que c'est souvent la fidélité, c'est souvent un peu moral, quoi. Peut-être où on se dit on ne peut pas tromper, ou peut-être on y met un côté un peu c'est comme un devoir, comme une obligation qu'on se donne à soi-même, tandis que il faut être libre. Est vrai, enfin c'est les deux choses, et c'est difficile à marier, et c'est difficile à ce que ça ne fasse pas de dégâts, ça peut, mais bon, après on voit un peu. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi un film de Bergman qui s'appelle Scène de la vie conjugale, qui était une série, etc. Et au départ, et c'était assez rare, parce qu'en général, quand on raconte une histoire d'amour, ça s'arrête à la rupture, quoi. Bon, on voit l'histoire d'amour, ça naît, etc., la rupture. Et là, Bergman, c'était beau dans cette histoire de Scène de la vie conjugale, c'est qu'après la rupture, le couple ne pouvait pas ne plus se voir, c'était pas possible. Et pourtant, ils avaient chacun fait une autre vie. Lui avec une femme beaucoup plus jeune, elle avec un autre homme. Et en fait, il y avait quelque chose qui les unissait très fortement, un lien si fort que les nouveaux arrivants, les nouvelles rencontres ne pouvaient pas dépasser, surpasser. Et c'est un peu tout ça qu'il y a dans chaque vie.
Et donc, l'exclusivité est une invention culturelle.
C'est peut-être pas une invention, ça peut-être quelque
chose
désirer. L'exclusivité ?
Oui, pour d'autres raisons que morales. Par paresse, par exemple,
c'est compliqué d'établir des règles dans quelque chose d'un sentiment qui est par définition irrationnel et qu'on ne peut pas maîtriser. On maîtrise pas le sentiment amoureux.
Et on peut aimer quelqu'un des décennies.
Ah oui, on a toujours envie de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Voilà, mais après, il y a la vie qui continue, y compris pour celui qui décide ça.
Est-ce que céder un désir physique est une faiblesse morale?
Oh là là, dis donc. Est-ce que le désir physique est une faiblesse morale? Ben non.
On le fait d'y céder.
Ça va pas ensemble, hein, vraiment, ces choses-là.
On peut pas se retenir.
Non, mais ce qui est beau, c'est de dire les choses à un moment donné ou à un autre.
Oh, mais c'est terrible, c'est pire.
Ah ben oui, mais vivre dans le mensonge, comme dirait notre militaire, là, c'est encore pire. C'est bien.
Ça dépend.
Ah, ça dépend.
Ah ben, je pense que si
oui,
on
la vie
trompé...
en société, ça nécessite la vérité, le mensonge. On se débrouille au milieu de tout ça. Bon, ben voilà. Dans la fin du texte de Cocteau dont je parlais tout à l'heure, le menteur, il sait plus très bien où il en est. À la fin, il dit bon bah ben, finalement, je suis un mensonge qui dit la vérité. Voilà. Donc ils en sortent avec cette formule là parce qu'on s'arrange avec tout. Hein.
Comme vous, André Dussolier.
Oui.
Dans le film, vous dites pour parler de vous, un lion blessé est toujours cruel. Est-ce que vous le pensez?
Bah oui, bien sûr, quand on est blessé, on devient cruel, on ramasse tous les éléments qui peuvent nous aider à faire mal à l'autre autant qu'il nous a fait mal. Donc je pense qu'il y a de ça. Après, on a la conscience quand même. C'est assez louable et tant mieux qu'on ait ça, quoi, pour dépasser. Et ça peut prendre du temps de dépasser. Mais sur le moment, la blessure, on peut pas l'empêcher, oui.
Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez plutôt du côté du personnage incarné par Sabine Azéma, et donc plutôt pour la prescription, mais pour ou contre la vengeance?
Non, la vengeance, je pense que c'est très négatif, ça entraîne vraiment, ça va pas très loin, quoi. Ça se retourne. Moi quand je sais pas, je suis animé par un sentiment de vengeance, ça se retourne toujours contre moi, quoi. C'est l'effet boomerang assuré, quoi. C'est-à-dire que si je me venge, je n'aime pas faire du, ça sert à rien, je vais faire du mal à l'autre, et je m'en voudrais autant à moi, d'avoir fait du mal, donc j'essaie de rétablir les choses, enfin je m'en sors pas. Donc non, la vengeance, c'est pas un bon réflexe.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher.
Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud, qu'on entend aussi sur la bande originale du film N'avoue jamais. Tout à l'heure, André Dussolier, vous avez cité Scène de la vie conjugale de Bergman. Est-ce qu'on est obligé de passer forcément par des conflits et par la perte pour se rendre compte que la personne avec laquelle on partage sa vie n'est pas acquise?
C'est jamais acquis, c'est toujours à conquérir, c'est toujours et puis on faut accepter l'évolution de l'autre, il faut accepter les moments fragiles, faibles, de pause ou d'arrêt, on passe par des états tellement vous m'aviez demandé au début comment s'était passée la journée. Ben j'étais vraiment épuisé, fatigué, puis j'essayais de me reposer, puis il se passait rien, donc je me suis levé et en l'espace de 20 minutes, j'ai fait ce que j'aurais pu faire en une journée. Donc la vie, c'est pas contrôlable. Il faut la laisser venir et il faut la vivre un peu pleinement, comme ça, la laisser surgir. Voilà, je ne réponds pas du tout à votre question. Mais...
Non, mais c'est un scoop, on peut avoir de bonnes surprises dans la vie.
Oui, c'est ça. Il faut toujours être prêt à vivre chaque surprise que la vie vous offre.
André Dussolier, votre personnage dans ce film essaie de retrouver son amour de jeunesse. Et je ne dis pas ce qu'il arrive, mais à ce moment, on passe vraiment de la comédie au drame.
Oui, c'est vrai. Bah oui, il faut pas essayer de revivre le passé où on essaye. Et ben, il le tente quand même. Il a raison. C'est une tentation normale et naturelle. Et puis finalement, bon, ben, c'est plutôt difficile à constater le résultat. Et donc, ben, c'est là au moins qu'il se rend compte de l'évolution de chacun et de l'amour qu'il avait aussi pour cette femme. Et puis finalement, ben, ouais, c'est toujours la même qu'il aime, quoi. Et donc, ça le fait revenir. Ça nous fait, voilà, c'est comme les autotamponneuses, quoi, hein, vraiment. On passe d'un mur à l'autre et la vie, c'est un peu ça, on ne maîtrise pas tout.
À un moment, vous pleurez, je ne dis pas pourquoi.
Ah oui.
À quoi pensez-vous quand vous pleurez? J'aime bien demander ça aux comédiens.
Ah oui. Alors écoutez, moi, la première fois que j'ai eu à pleurer, c'était dans un film qui s'appelle Mélo de René, et c'était plutôt difficile parce que je partais à froid, quoi, comme ça, puis il m'annonçait, c'était Pierre Arditi, il m'annonçait une nouvelle, il disait que sa femme donc m'avait aimé, et il me révélait ça, et je devais être ému à tel point qu'il disait, mais tu pleures. Et donc, c'est incroyable, parce que là, il faut vraiment se mettre en condition. J'avais assassiné toute ma famille avant de faire la prise. Et puis après, bon, vous étiez à la deuxième prise, il fallait que je les enterre. Puis la troisième prise, était... enfin non, on fait appel à des choses personnelles, évidemment. Mais en même temps, c'est fictif, tout ça. Une fois que c'est terminé, on passe à autre chose. Et heureusement, on revient à la vie présente.
Mais cette femme ne m'a jamais aimé, Pierre.
C'est faux.
Elle ne m'a jamais aimé. Je suis aussi fat qu'un autre, aussi enclin à remarquer la moindre attention.
Non, tu mens.
Oh,
tu mens.
Tu mens ! Dès que t'es parti en tournée, il y a eu cet effroyable coup de désolation. Elle acceptait plus de voir personne, même pas les intimes.
Rester là sur place, souffrir, dépérir. Des heures. Passer des heures devant la fenêtre de sa chambre. Oh, serais-je demandé ce qu'elle pouvait regarder par cette fenêtre. Et je le sais maintenant. C'est ton côté, ça. Elle en avait fait ton côté. Elle était comme une voyageuse descendue dans un hôtel sur un port de mer qui guette l'arrivée d'un bateau, d'un passager. Qu'est-ce que tu as ?
Tu l'as aimée aussi.
Non.
Non ? Mais tu souffres ?
Oui.
T'as les yeux pleins de larmes, c'est de la compassion peut-être ?
Non.
Alors qu'est-ce qu'il y a ?
Eh bien, j'avais prévu de passer cette scène c'est avec incroyable. Pierre Arditi et vous dans oui. Mélo d'Alain René. Oui. C'est à celle-là que vous faisiez référence ?
Oui, oui, oui. Et alors, il y a deux choses que je voudrais vous dire à propos de cette scène. Bravo de l'avoir fait ressurgir comme ça. C'est-à-dire que, en fait, ça concerne la vérité et le mensonge et la position de l'acteur, souvent. Donc, dans cette scène, il dit « Mais tu pleures ?» Arditi dit « Mais tu pleures ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et donc, en effet, et je m'étais concentré à chaque prise pour pleurer, etc. Bon. Et puis finalement, Alain René, parce que son film, il l'a senti comme ça, il n'a pas pris la scène où je pleurais le plus, il a pris la scène où je pleurais le moins. Et donc, voilà, c'est le maître à bord, un metteur en scène. Et une deuxième chose que je voulais dire, souvent, d'ailleurs, j'y pense beaucoup quand je pense à Arditi, parce que Pierre, c'est quelqu'un qui est toujours en train de plaisanter, de rigoler, etc. Et finalement, quand on l'entend dans cette scène, et c'est ce que j'éprouvais sur le moment, c'est que, en fait, je connais bien les acteurs que lorsqu'ils jouent, quoi. Parce qu'ils jouent avec vérité, avec beaucoup de sincérité. Et donc, c'est là que j'avais l'impression de le rencontrer vraiment. Voilà. Bon, c'était deux petites commentaires que je voulais faire.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit, et puis... Elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive.
Bruxelles de Dick Angarn, c'est votre premier choix musical, André Dussolier.
Oui, parce que bon, j'aime beaucoup les Belges, d'une part, mais et puis aussi parce qu'ils ont un côté un peu, je sais pas, à la fois provinciaux, un petit grain de folie aussi, et puis en fait cette chanson de Dick Angarn raconte un peu quand le cœur balance entre la, pour moi en tout cas, entre la province, Annecy, et puis Paris, quoi, voilà. Donc c'est un peu la même chose pour un Belge là, pour Dick Angarn, il aime bien Bruxelles, bon, c'est sa ville natale et c'est là qu'il revient toujours, même si Paris l'a fait sortir un petit peu et l'a fait émerger dans un autre monde. Mais on a toujours envie de revenir dans le premier lit qu'on a connu, quoi. Voilà, le lit de son enfance. Et donc, voilà, ça c'était Dick Angarn, qu'on n'entend pas plus beaucoup, mais qui est un auteur et j'aimais bien à la fois ses mélodies et ses paroles.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques somme toute sa...
Quel rythme à bout de souffle de Claude Nougaro sur une musique de Dave Brubeck dans Grand Canal sur France Inter. André Dussolier, je donne la parole.
Souvent il y a des chansons, il y avait un spectacle comme ça qui avait été fait aussi avec les paroles des chansons qui pourraient être des textes et comme des poèmes qu'on a envie de dire. C'est Jean-Paul Rouve qui l'avait joué et donc c'était palpitant d'entendre ça, ces textes-là sans leur musique. Et là, bon, Nougaro, vraiment, il adore le jazz et donc il a eu envie d'écrire des paroles à bout de souffle, bon, évidemment, de Godard, auquel on pense, et puis la musique de Dave Brubeck. Et c'est pas un hasard si j'ai voulu le faire entendre là maintenant, c'est parce que j'aurais envie à la fois de savoir chanter comme Nougaro, ça je pourrais pas, il faut que j'y renonce, mais en tout cas de dire ces mots-là, dans ce rythme-là, parce que c'est une dramatisation de ce qu'on est en train de jouer. Il y a des textes comme ça, moi j'aime bien les faire vivre, j'aime bien les jouer comme des partitions, comme des petites pièces de théâtre, et là c'en est une.
D'ailleurs, vous avez plusieurs fois récité des textes que vous affectionniez sur scène, André oui. Dussolier, parfois de façon très très musicale. Je crois que vous avez prévu de dire des textes ce soir.
Là maintenant?
Oui.
Oui, vous m'avez. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui frôlent l'absurde. Il y en a un que vous allez reconnaître, évidemment.
Je précise que vous n'avez aucune note sous les yeux.
Non, aucune. Mais je pense que vous allez reconnaître, ou les auditeurs vont reconnaître immédiatement l'auteur de ce texte-là. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je sais très bien mon appartement à celui du dessous. À condition d'obtenir celui du dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras-dessous avec celui du dessus, toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je l'ai su. Parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus, comme ils étaient tous les dessous, ils sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Bon, j'ai dit trop vite, évidemment.
Ah non, c'était merveilleux. Un autre membre du peuple élu, Raymond Devos.
Exactement. Alors évidemment, il y a tous les textes de Raymond Devos, je m'y coltinerai pas parce que ils sont tellement liés à sa personnalité, à sa façon de jouer, etc. Mais celui-là est tellement bien tricoté et tellement bien écrit qu'on peut se l'approprier, me semble-t-il.
Il y avait un texte très très drôle de lui et en même temps désespéré où il se désolait d'avoir perdu sa tête et à un moment un personnage lui demande « Mais pourquoi avez-vous tant besoin de votre tête ?» et il dit « Mais pour me pendre !» Voilà, j'aime beaucoup ce sketch. Vous avez un autre texte dans votre chapeau de magicien?
Ah, j'en ai plusieurs, mais il ne faut pas qu'il soit trop long. Rosette, agenouillée au confessionnal, murmure « Mon bon père, avoue, je m'en accuse, j'ai trompé mon mari. » Ma fille sait très mal, il le prêterait combien de fois? Rose, confuse, trouble, balbutie, hésite à en faire répondre 9 fois. Oh, depuis quand fait le prêtre? Alors Rose, depuis hier soir. Et sous le nuage blond de ses cheveux d'or fin, Rose devient plus rose. 9 fois depuis hier, répond le procureur, je ne puis l'empêcher de pareille importance. Vous absoudre aujourd'hui sans avoir référé à l'évêché, qui fixera la pénitence. Revenez dans 8 jours. L'évêché décréta qu'ayant fauté 9 fois, Rose aurait pour sa peine à dire 5 ave. Rose s'en acquitta et fut absoute. Mais au bout d'une semaine, au sacré tribunal, avec un air mari, la voici qui revient s'accuser d'inconstance, disant « Cette fois encore, j'ai trompé mon mari, mon père. Indiquez-moi quelle est ma pénitence. » Et lui, sur le tarif de l'absolution dernière, s'efforçant de se baser, calcule « Pour 9 fois, 5 ave d'une proportion, je dois donc pour 7 fois établir la formule. 5 est à 9, comme X à 7, d'où je conclue qu'il faut... » Oh, c'est vraiment trop compliqué, ma chère. Faites votre mari cocu 2 fois de plus et dites 5 ave comme la fois dernière. Voilà, c'est une petite blagounette.
Quelle est la source?
Alors, le titre, c'est La pénitence est douce de Léon Vibert.
Appelez-moi Paul de Carotte. C'est mon nom. Monsieur Poil de Carotte. Pas monsieur. Monsieur Poil de Carotte. Eh bien, si Madame Lepic vous entendait, elle se tordrait. Appelez-moi Paul de Carotte, tout court, comme je vous appelle Annette. Ben, Paul de Carotte, c'est pas un nom de chrétien. Vous avez un autre nom, un petit nom de baptême. Oui, son mari ne sert plus depuis le baptême, alors. On l'a oublié. Où avez-vous pris ce surnom? C'est Mme Lupi qui me l'a donné à cause de la couleur de mes cheveux. Ils sont blonds, blonds ardents. Mme Lupi les voit rouges, elle a de bons yeux, allez, appelez-moi Paul de Carotte. Moi, je n'ose pas, et puisque je vous le permets...
1955 sur l'ORTF, Berthe Beauville lit un extrait de Poil de carotte de Jules Renard. Et ça, je sais, André Dussollier, qu'on vous le ressort à chaque fois qu'on vous interviewe. Mais c'est la pièce que vous voyez à 10 ans dans la petite ville de Saint-Julien en Genevois grâce à une professeure de français. Un choc inoubliable. Et je voulais savoir quels autres chocs vous aviez eus depuis.
Alors, Poil de carotte, c'est tout simple, c'est la découverte du théâtre. Je ne savais même pas que le théâtre existait. Et tout d'un coup, je vois des acteurs qui jouent en scène une histoire familiale, etc., qui me touchait beaucoup parce que vraiment, cet enfant, détesté par sa mère, aimé par son père. Enfin, vraiment, il y avait plein de thèmes qui, dans lesquels on pouvait se reconnaître, quelques vies qu'on ait pu avoir. Et puis, bon, il y avait des acteurs qui pleuraient, qui riaient, qui étaient là en scène. Et puis, des gens qui étaient dans la salle qui riaient aussi, qui étaient émus. Et je me disais, mais c'est une vie incroyable, quoi. C'est fou, quoi. Même c'est beaucoup plus riche que ce que je vis dans la réalité. Donc, du coup, ça, c'était violent, quoi, comme rencontre. Je voulais parler de scène de la vie conjugale. Ben oui, parce que ça aussi, c'était une pièce que j'ai jouée avec Nicole Garcia au départ. Vraiment, qui était montée par Rita Rosset, qui était une des femmes de Bergman et qui l'avait jouée en Allemagne et qui nous transmettait toute la mise en scène de Bergman lui-même. Et c'était incroyable de voir comment les gens réagissaient à cette vie parce que Bergman avait raconter les choses de très près, de ce qu'il avait vécu. Et donc, il y avait vraiment... Mais on nous racontait un peu l'attitude des couples qui regardaient la pièce, mais c'était vraiment insensé, quoi. Vraiment, c'est là que le théâtre peut être un choc et une identification immédiate avec ce qui se dit, le cinéma aussi, évidemment. C'est là que l'art peut tout d'un coup permettre de se rencontrer ou de rencontrer, grâce à un auteur, la vie, quoi. Une manière de vivre ou de penser ou de sentir qui n'est pas révélée à soi-même ou par les autres qu'on rencontre dans la vie réelle. Donc c'est ça, voilà, des chocs. Je pourrais en citer plein, hein, à chaque fois.
Parmi ces hommes que vous fréquentiez à cette époque, vous n'aviez pas une préférence?
Oh ben, je sais pas, non. Ben, c'est-à-dire que je les aimais tous bien pour des qualités personnelles différentes qu'ils avaient chacun.
Mais est-ce que vous vous rendez compte, Camille, que vous aviez des rapports intéressés avec chacun d'eux?
Oh ben, j'espère bien, dites. J'aurais pas couché avec eux sans raison, je suis pas comme ça, moi.
Bernadette Lafont, qui est vraiment agréable d'entendre.
Ah oui, c'est le premier film dans lequel vous avez joué, André Dussollier, Une belle fille comme moi, 72. François Truffaut, qui vous repère au conservatoire. Et il se trouve que le premier film que vous avez vu au cinéma, c'était Les 400 coups. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre rencontre avec lui?
C'était insensé, puisque j'avais vu ça, oui, et puis j'avais vu d'autres films quand j'étais à Grenoble aussi, de Truffaut, je suivais tous les films de la Nouvelle Vague à l'époque, et j'aurais jamais imaginé que ma première rencontre au cinéma, ce serait avec Truffaut. Et là, c'était un film qui n'était pas totalement truffaldien, diront les spécialistes, qui était adapté d'un livre américain, qui s'appelait Une belle fille comme moi, qu'il avait écrit vraiment spécialement pour Bernadette Lafont. Il y avait aussi Charles Denner, Claude Brasseur, Philippe Lothar, enfin vraiment toute une galerie de grands comédiens, et j'étais très impressionné, et moi, j'étais, comment dire, un débutant là-dedans, et je n'avais fait que du théâtre. Donc un jour, Truffaut me découvre derrière le décor, il me dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» On venait de tourner la scène, j'ai dit « Bah, j'essaie de voir si j'ai bien fait tout ce que j'avais imaginé faire. » Bah, il dit bah, « Vraiment, vous êtes le seul acteur avec Michel Bouquet à répéter les scènes une fois que vous les avez tournées. » Et donc, je reconnaissais bien là le fait, l'habitude du théâtre, quoi. Michel Bouquet aussi devait avoir une frustration quand on tourne au cinéma, ça va tellement vite et on se dit, au théâtre, on peut améliorer les choses, quoi. C'est ça qui est beau.
Il neige sur Liège, et la neige sur Liège pour neiger met des gants. Il neige.
Alors, comme vous avez choisi tout à l'heure une chanson sur Bruxelles, bah là, on a pris sur Liège. C'est Jacques Brel, Il neige sur Liège. Je crois que Jacques Brel a fait partie des artistes qui ont beaucoup compté pour vous, André Dussollier.
Ah oui, dans ma jeunesse, oui, vraiment. Les chansons, toute la vie qui est racontée à travers ces chansons, c'était vraiment là aussi des morceaux de vie et qui étaient quand même comme des photographies de ce que je pouvais ressentir ou vivre aussi pour mon propre compte. Il avait une manière d'aller directement dans le cœur des choses, quoi, qui était vraiment, ah, c'était, ça fait du bien, quoi, tout d'un coup, quand on entend une voix qui vous parle aussi, quoi, et dans votre solitude, dans votre monde à vous, tout d'un coup, vous avez un copain immédiatement grâce à une chanson.
Il y a un livre aussi que vous aimez beaucoup et vous l'aviez évoqué quand je vous avais reçu dans L'Embellie, c'est Les coups de Jean Mekert, oui. Et j'y pense puisqu'il s'agit à nouveau de des gens qui ont le vocabulaire, les mots, oui. Et des gens qui ne l'ont pas.
Oui, exactement. Oui, oui, c'est l'histoire d'un couple. Donc lui, il est ouvrier, elle est institutrice, je sais plus. Et puis donc ils s'aiment d'un amour fou. Et puis petit à petit, l'amour se délite. Et donc elle a les mots, elle parle. Et puis lui, il a plus les mots et ça finit par des coups. C'est coups. Et je pense souvent à ça parce que en effet, moi, j'entendais dans les années 60, j'avais un oncle. C'était la tradition familiale. Il était l'aîné, il était devenu curé, il avait construit son église et il disait. Le fossé se creuse de plus en plus entre l'élite et la périphérie. C'était à Chambéry, c'était dans les années 60. Et là, évidemment, aujourd'hui, c'est pire que tout, quoi. C'est-à-dire, le fossé, c'est plus un fossé, c'est un gouffre entre ceux qui ont la parole et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont accès ou les autres qui ne l'ont. Et donc, c'est vrai que nous, on a le privilège de pouvoir jouer dans les théâtres des textes comme ça. Moi, je suis heureux, mais je sais que je vais vers des gens qui sont déjà acquis, quoi, d'une certaine façon, et qui aiment les mots. Mais j'aimerais bien faire entendre les mots et faire, je sais que, j'ai des contacts comme ça avec certaines personnes qui n'ont pas accès ou qui ont quitté l'école assez vite. Alors, ils ont inventé leur chansons, le rap, le slam, tout. Mais j'aimerais bien montrer que, à certains moments, il peut y avoir des mots. Par exemple, je sais pas, vous m'avez fait dire des textes, mais il y en a un de Victor Hugo qui s'appelle Le Mot, justement, qui a révélé. Enfin, comment dire, il est passé à la télévision, et du coup, il y a eu beaucoup de jeunes comme ça qui ont eu envie de le dire, alors qu'il date de 1856. Bref, Jean, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez, tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot. Que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'antenne, il est dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle, il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera, il suit les quais, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, il va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé, il sait le numéro, l'étage, il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Bon, ça date de 1856, c'est d'une modernité incroyable, et le hasard a voulu que je rencontre des jeunes qui se sont appropriés ce texte-là, parce que, bon, ben voilà, il pourrait avoir été écrit aujourd'hui.
Je vous remets le Molière de la meilleure fin d'émission de Grand Canal, André Dussolier. Merci beaucoup.
Ben merci à vous de cette traversée sur le Grand Canal de Venise, bien sûr, évidemment.
Oui,
hein.
Évidemment. Quel autre ? Je rappelle que le film N'avoue jamais d'Yvan Calbérac est sorti hier en salle et vous jouerez prochainement dans le film Paradis Paris de Marjane Satrapi. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Mathias Alléon.